On est chez Isabelle et Christian d'Oursin, pas loin de Réanette, dans la commune de Réanette. Voilà. Vous parlez juste comme
Je
ça.
m'appelle Isabelle, je suis née à Cannes sur la côte d'Azur, mais je suis bien contente d'être arrivée ici. Donc je suis née en 1965 et je suis arrivée à Réanette en 1998. Et je me sens bien mieux ici que sur la côte d'Uzur, comme disait mon oncle. Et votre profession? Agricultrice.
Je suis.
Je suis agricultrice.
Vous avez toujours voulu être agricultrice? C'était l'idée?
C'était l'idée. Quand j'ai fait des études agricoles en n'étant pas du tout de ce milieu, et forcément, j'avais envie de m'installer. Enfin, c'était une idée de longue date, mais qui n'avait jamais pu se faire, jusqu'à ce que je rencontre donc Christian. Et je suis arrivée ici en 98 et j'étais conjointe collaboratrice, puisque lui était déjà agriculteur. Il s'était arrêté un moment. Enfin bref, on a relancé une activité quand je suis arrivée. Voilà, il va vous expliquer lui son parcours. Moi, je trouve que quand je suis arrivée ici, bon, j'avais déjà deux enfants, deux jeunes enfants, donc il y avait la mise à l'école et le lien social s'est fait rapidement grâce à l'école ou grâce à l'ambiance rurale. Enfin, en tout cas, je trouve que j'avais beaucoup plus d'interactions sociales en étant arrivée ici que lorsque j'étais en bas. En bas, c'est-à-dire j'ai vécu autour d'Avignon et Carpentras pendant de longues années. Et donc ici, je m'y suis trouvée bien, bien accueillie en tout cas.
Christian?
Eh bien, je me prénomme Christian, puisque vous me le dites. Et
Non, c'est pas ça, ça.
j'ai 63 ans. Je suis né en 1960 à Avignon. Et mes parents ont acheté la propriété. C'était une résidence secondaire, une ruine. Une ruine, sans toiture, ni porte, ni fenêtre. En 1964, par l'intermédiaire d'amis et que les propriétaires ne voulaient pas vendre, justement, jusqu'à ce que. Oui, ici. Et donc voilà. Et moi, j'ai fait une formation de cuisinier. Et en 84, j'en ai eu ras-le-bol, complètement. Et j'ai décidé de faire paysan. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et je me suis lancé dans une formation agricole d'élevage de petits gibiers, faisant perdreaux, cailles, lièvres, lapins. Et je me suis installé ici parce qu'il n'y avait pas de terre. Tout était en friche, tout était en chimpasse. J'avais 10 hectares de bois, de cailloux et seulement 2 fois 5 000 mètres de terre. Et j'ai dit, ben, je tente l'aventure. J'aurai toujours un peu de superficie pour manger des patates. Voilà. Et donc, je me suis installé ici. J'ai fait ma formation en 85. Et je me suis installé ici en 80, début 86. Et je me suis déclaré agriculteur en 87. Voilà. Et au fur et à mesure de mon installation, j'ai pu avoir qui me prête 1 000 mètres de terrain, qui m'en prête 2 000, qui m'en prête 5 000. Et en venant m'installer ici, je suis allé me présenter à mes voisins. C'est la moindre des politesses pour moi. Et en 88, Lucie Martin est venue me voir et elle m'a dit: j'ai 2,5 hectares en bas, je vous les propose pour les cultiver. Et j'ai demandé pourquoi et qu'elle ne le laissait pas à quelqu'un d'autre. Elle me dit: vous êtes le seul à être venu vous présenter. Donc, par respect, je vous le laisse. Voilà. Et avec l'intermédiaire de Martial, j'ai appris le métier de paysan, à passer des après-midi sur l'aile du tracteur, à discuter de techniques, de technologies. J'avais quelques bases de jardinage que j'ai mis à plus grande échelle. Et voilà, donc j'ai fait l'investissement de volières, de poussinières, d'incubateurs, et je faisais toute ma reproduction. Jusqu'en 98, où j'ai connu madame, mais voilà, je me suis cassé la figure.
Tu avais arrêté avant?
Non, j'ai arrêté en 98.
Tu as décidé d'arrêter en tout cas.
Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 97, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait plus de bas que de hauts. Et puis avec la recrudescence des gros gibiers, les sociétés du coin, c'était pas folichon, mais elles ont préféré investir dans les défenses, dans les clôtures électriques, dans les défenses du gros gibier. Et ils n'avaient plus assez de sous pour m'acheter des oiseaux et autres. Et donc, mon activité a périclité. Et puis j'ai forcé d'arrêter, quoi. Pas assez de terre. J'avais posé des annonces à la boulangerie, au Crédit Agricole, à la boucherie, pour avoir des terres.
Parce que justement, les terres, on te les a prêtées volontiers, mais voilà. Pour avoir un bail qui nous permet d'être...
Il me manquait de la superficie.
Officiellement agriculteur.
Il me manquait de la superficie pour rester agriculteur. Donc, j'ai arrêté le métier d'agriculteur pendant un an et demi. Mais comme j'avais des poules, j'avais un peu de production, j'ai inondé, j'ai gavé mes propriétaires pour qu'ils me fassent un bail. Entre autres, le père Joubert. Le Louis Joubert, et qui un jour il me dit, mais pourquoi? Donc ça c'était au début 98, 99. 99, Isabelle était là déjà, et il me dit, mais pourquoi tu me mènes tant de... Pourquoi tu me mènes de l'époque que je ne sais plus quoi en faire? Je ne mange pas tout. J'ai dit, il me dit, tu n'as qu'à le vendre sur le marché. J'ai dit, je ne peux pas, je ne suis pas agriculteur. Mais comment ça se fait que tu n'es pas agriculteur? J'ai dit, non, je ne suis plus agriculteur, j'ai passé de superficie pour être déclaré à la MSA, pour être exploitant. Alors il me dit, écoute, moi je vais te les louer. Et donc on est allé chez le notaire pour avoir un bail en bonne et due forme, comme on dit chez certains. Et quand le notaire il a dit, on marque quoi comme rente? Le vieux Joubert, il a dit, mais s'il y a une rente, je loue pas. Moi, déconfit, Isabelle qui commence à tirer l'alarme, tout un espoir de vie foutu à... On attendait ça depuis presque 6 mois, donc... Et là, le notaire qui a dit, on peut faire autrement, c'est-à-dire, vous ne lui louez pas, mais vous lui faites un commodat, un prêt à usage, et il n'y a pas d'argent qui rentre en compte. Alors le père Joubert, d'un coup, il a été
rassuré.
Et on a fait un contrat de 5 ans, tacitement reconductible, pour vendanger ces deux parcelles de raisins de table, un tombereau de fumier et le labour de son jardin. C'était correct dans tous les cas, et ça a pu nous...
Ça nous a permis de...
permettre de redevenir agriculteurs. Voilà.
Auprès de la MSA.
Mais
on ne rentrait pas dans les clous des aides aux jeunes agriculteurs auxquelles j'aurais encore pu prétendre.
On aurait pu, parce que j'avais les capacités.
Aussi, voilà. Enfin, en tout cas, on n'était pas dans les clous parce qu'ils estimaient que c'était...
Pas viable.
Le côté pas viable, mais un prêt à usage, c'était précaire.
Voilà.
Comme on n'avait pas de baux officiels. Fixe sur 9 ans, un bail rural. Voilà. On n'a pas eu droit à tout ça. Mais on était décidé, donc on l'a fait quand même.
On avait des brebis, en plus. On avait une petite vingtaine de brebis. Et quand on a arrêté les brebis, on en avait une cinquantaine.
Mais on a arrêté les brebis
voilà.
Parce que pas moyen de les abattre dans des normes officielles. Tous les abattoirs, les petits abattoirs ruraux, ferment. Donc, pour abattre deux agneaux à la fois, il nous fallait aller faire deux heures de route, avoir deux véhicules. Enfin, ouais. Tout était très difficile pour faire une agriculture paysanne comme on l'envisage, voilà, et comme on a toujours voulu la faire. Donc, pour les animaux, c'était compliqué. C'est pour ça qu'on a lâché les animaux, on a lâché les agneaux, les moutons, et on s'est orienté sur la transformation du lait avec des vaches. Là, on pouvait faire de la vente directe plus facilement, disons.
Oui, parce que quand on s'est réinstallé, donc quand je me suis réinstallé en tant que chef d'exploitation, c'est pas un mot qui me plaît, mais chef d'entreprise agricole, puisque je préfère que ce soit ça, que paysan, c'est pas un métier.
Ben, pourtant.
Ben oui, mais bon, c'est pas un métier. Et donc, tu fatigues? Ouais. Et donc, que voulais-je dire? Que oui, il nous fallait 200 brebis. Mais 200 brebis pour être agriculteur. 200 brebis pour être agriculteur, alors qu'on n'avait pas de terre. On aurait pu mettre 200 brebis et être agriculteur. Mais vous faites pâturer les moutons, dans les cailloux, voilà. Donc, on a dit, non, on veut pas ça. On veut un petit troupeau et faire de la vente directe. Et il n'y avait pas encore la tuerie à Saint-Aubin.
Oui, c'est vrai.
Il y avait quand moi je me suis installé en 86, il y avait encore l'abattoir à Buis. On pouvait aller mener les veaux, les vaches et les cochons, les poules et les canards à Buis. Il tuait tout.
Il a fermé en quelle année?
En 87. Mmh. Ouais, c'est Yves qui travaillait. Ouais. Et donc voilà. Et après on a mis des cochons parce que pour écouler le petit lait. Et puis
le petit lait de la fromagerie.
Petit lait de la fromagerie, voilà. Et je te laisse parler de la bière, ce qui a été une clé.
Oui, c'est vrai.
Donc on travaille. Juste entre parenthèses, on travaillait sans engrais, sans produits chimiques, sans antibiotiques sur les animaux. Tout ça, ça nous a toujours révulsé le poil, hérissé le poil. Et donc voilà. Et après l'histoire du bio.
J'ai fait la formation pour apprendre à faire les fromages. Quand on a eu une première vache. Alors ça c'est une jolie histoire.
Ah oui.
C'est un cadeau de mariage en gros. Margot, elle est née chez Émile.
Chez Émile Chapon.
C'est pas les noms.
Ben oui, Émile est mort.
Ah oui,
non. Donc, pas grave. Émile Chapon, il est mort.
Margot est née chez Émile, un vieux du village de Réanette qui faisait encore le fromage dans sa cuisine, qui avait une dérogation pour ça, parce qu'il lui restait plus que trois vaches et il avait toujours travaillé comme ça. Bref, donc, mais il avait un certain âge, problème de genoux, et la dernière vache, les dernières génisses qui sont nées chez lui, Christian a dit, écoute, je te la prends. Christian a toujours eu envie d'une vache sur la ferme parce que c'est un élément incontournable d'une ferme équilibrée. Voilà.
Une ferme sans vache, c'est pas une ferme.
Et donc on a acheté Margot, mais moitié-moitié avec le cousin. Le cousin en a payé la moitié. Et quand on s'est marié, le cousin a dit, écoute, cette moitié-là, je te la donne, tu ne me la rembourses pas, c'est mon cadeau de mariage. Voilà. Donc Margot a donc donné le nom à la ferme. Parce que quand j'ai appris à faire les fromages, je me suis d'abord exercée à faire des petits tomes comme font les chevriers, c'est la base. Et puis, j'ai eu envie de faire des pâtes pressées, des cahiers doux, tout type de... Les yaourts, c'est venu après. Oui. Tout type de techniques fromagères. Et quand j'ai fait la pâte pressée, il fallait toujours expliquer ce que c'était aux clients. Donc, c'était un peu long. Et on cherchait un nom. Et c'est notre fils aîné, Quentin, qui a trouvé Margot Olive. Et on a trouvé que ça sonnait bien. Parce que Margot, du quartier des Olives. Ça faisait un joli nom de fromage, ça pétait bien et c'est devenu aussi le nom de la ferme. Ouais. Qui ici s'appelait la ferme des olives, elle n'avait pas de nom particulier.
C'était même pas le nom de la ferme des olives, parce que moi je l'avais baptisé la faisanderie du Ventoux.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, un lieu où on élève les faisans, c'était la faisanderie du Ventoux. Bon, je n'avais pas déposé le nom, mais...
Donc c'est devenu Margolive grâce aux enfants. Et les enfants ont été importants aussi parce que, donc on a eu Margot, elle a fait un premier veau par insémination, hein, on n'avait pas de taureau. Et puis après, elle ne revenait plus en chaleur, on n'arrivait pas à avoir les chaleurs. Donc on nous a dit, une vache, pour qu'elle marque les chaleurs, c'est bien quand elles sont deux. Donc on est allé chercher une copine à Margot. Donc c'était Lily. Lily, c'était ma vache parce que pour la traire, elle était très basse. Donc Christian, il avait un peu du mal à se baisser. Enfin, c'était pas très confortable. Et moi, il m'avait fait un petit tabouret. Donc je m'asseyais sur le tabouret, je mettais le front sur le flanc chaud de la vache. Et même le matin endormi, je pouvais traire et c'était très agréable. C'est vrai, j'ai un bon souvenir de Lily. Elle était brave. Je risquais pas les coups de patte parce qu'elle était vraiment très tranquille. Et Christian traînait Margot, donc, qui avait remarqué les chaleurs. On avait pu refaire une insémination. Et puis, de fil en aiguille, plutôt que d'avoir juste une vache pour nous et que de toute façon, on n'aurait jamais mangé tout ce fromage, ni bu tout ce lait, eh ben, on a agrandi le troupeau et j'ai commencé à faire de la vente quasiment au porte-à-porte parce qu'il a fallu, il fallait quand même faire rentrer... des sous, faire bouillir la marmite. Donc je faisais la tournée de pain pour le boulanger une fois par semaine, le boulanger de Savoyan, le village à côté. Et en vendant le pain du boulanger, je vendais mes fromages. Et puis j'ai fait les marchés, bien sûr. Mais il y avait un truc que je voulais dire avant.
Mais tant que c'était de la vente directe, on n'avait pas besoin de fromagerie. Et quand on a demandé à faire la fromagerie, il nous a dit, mais est-ce que vous voulez vendre au supermarché pour Leclerc, Carrefour et Auchan? J'ai dit non, c'est pour faire de la vente directe sur les marchés. Il me dit, le technicien il nous a dit, mais une petite fromagerie, il n'y a pas besoin de faire une usine Danone ou Nestlé, donc... vous pouvez, et si vos analyses sont correctes, voilà, il n'y a pas de souci.
La seule contrainte qu'on avait, et qui est normale, c'était de faire une analyse par an sur chaque type de produit. Donc c'était ce qu'ils appellent des autocontrôles. Bon, et on a eu deux visites des services vétérinaires. Hein, au début, quand on a fait une petite fromagerie à notre échelle. Et une deuxième, quelques années plus tard, voilà. Mais voyant que ça se passait bien, on n'a plus de demandes particulières.